Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 4h à Paris.
Mathis Limano.
Et dans les titres de l'actualité, c'était l'échange ce samedi d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. À Gaza, une nouvelle mise en scène orchestrée par le Hamas. Et en Israël, ces images qui ont choqué. Les détenus étaient vêtus de survêtements arborant l'étoile de David. On est à Jérusalem dans un instant. Également à la une, les négociations. Les négociateurs américains, russes et ukrainiens attendus en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Annonce de Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, qui fait suite à un appel avec son homologue russe. Et puis en Ligue 1 de football, l'OM enchaîne une troisième victoire de rang. Succès 5 buts à 1 contre Saint-Etienne. Mais d'abord, ces images choc hier en Israël, alors que le Hamas a libéré comme convenu 3 otages israéliens. L'État hébreu a pour sa part relâché 369 détenus palestiniens. Mais l'administration pénitentiaire israélienne les a contraints à revêtir des survêtements floqués d'une étoile de David. Une mise en scène révoltante condamnée de part et d'autre de la frontière qui rappelle les pires heures de l'histoire. À Jérusalem, Sami Boukhalifa.
L'administration pénitentiaire israélienne a choisi d'immortaliser cette mise en scène et a publié 2 photos. Sur le premier cliché, une dizaine de détenus palestiniens à genoux portant ses survêtements avec une étoile de David sur le torse et sur le dos. Et cette inscription en arabe, ni oubli, ni pardon. Sur la seconde photo, on aperçoit derrière des barreaux un groupe important de prisonniers palestiniens vêtus de ce même habit. Certains sont pieds nus. Kadoura Fares, président du club des prisonniers palestiniens, regrette cette mise en scène scandaleuse.
C'est comme si Israël s'inspirait des souffrances infligées par les nazis au peuple juif pour refaire subir la même chose. S'il y a bien un peuple qui peut être sensible aux symboles qu'une telle image renvoie, c'est le peuple juif. Et pourtant, Israël a choisi de reprendre ses méthodes de fasciste. C'est à la fois raciste et idiot, c'est un comportement criminel.
Le Club des prisonniers palestiniens est une organisation civile de défense des droits des détenus palestiniens écroués en Israël. Depuis le début de la guerre à Gaza, elle a publié de nombreux rapports pour dénoncer la torture et les sévices infligés par Israël aux détenus palestiniens.
Dès leur sortie de prison, certains ex-détenus ont directement été hospitalisés. Presque tous ceux qui ont été relâchés souffrent d'anémie et de maladies de peau. Certains ont même des fractures aux côtes, des dents cassées. Certains vont garder des séquelles à vie. Et je ne parle même pas des séquelles psychologiques causées par les souffrances qu'ils ont endurées.
Selon Kadoura Fares, 58 prisonniers palestiniens sont morts en détention durant les 16 derniers mois. Des milliers de Gazaouis sont détenus par Israël sans charge ni jugement. Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI.
Et pas mieux du côté du Hamas. Comme à son habitude, le mouvement palestinien a mis en scène la libération des otages israéliens. Les 3 hommes sont apparus amaigris, entourés de combattants du Hamas et du djihad islamique, exhibés devant une foule chauffée à blanc. Il faut en faire plus pour la dignité des otages et des prisonniers, interpelle le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui appelle aussi à plus de discrétion lors des futurs échanges. C'est dans ce contexte que Marco Rubio est arrivé hier en Israël. Le chef de la diplomatie américaine attendu ce dimanche par Benjamin Netanyahou. Au menu des discussions, la proposition américaine d'une prise de contrôle de Gaza et les négociations de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Marco Rubio continuera ensuite sa tournée régionale aux Émirats Arabes Unis. Mais avant cela, un passage en Arabie Saoudite où il doit échanger avec des négociateurs russes et ukrainiens. Pascal Thibault, les Européens, comme ils le redoutaient, semblent à ce stade écartés des négociations.
Une rencontre avec des hauts responsables américains, russes et ukrainiens pourrait avoir lieu dans les prochains jours en Arabie Saoudite. L'annonce a été faite à Washington après la confirmation d'un appel téléphonique entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov. Un échange qui succède à celui qui a eu lieu cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Marco Rubio lui-même ainsi que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff doivent participer à cette rencontre en Arabie Saoudite. Les responsables américains tablent sur la participation du président ukrainien Zelensky. On ne sait pas encore qui représentera la Russie. Cette accélération du calendrier et des négociations à court terme sur l'Ukraine inquiète les Européens et ont dominé les débats à la conférence sur la sécurité de Munich. Volodymyr Zelensky a répété qu'aucune solution sans l'Ukraine, mais aussi sans l'Europe, ne pourrait être acceptée. L'envoyé spécial américain Keith Kellogg a laissé entendre que les Européens ne seraient pas directement impliqués dans les négociations, mais qu'ils auraient leur mot à dire. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Suite et fin aujourd'hui du sommet de l'Union africaine en Éthiopie avec cette question débattue. Les agences de notation occidentales ont-elles des biais injustes quand il s'agit de noter les économies africaines? C'est en tout cas ce qu'estiment les dirigeants africains qui ont annoncé la création d'une agence de notation panafricaine, une agence adaptée qui intégrera les indicateurs spécifiques du continent. Son nom, l'AFCRA, avec un lancement prévu en juin prochain. Charlotte Cosset.
Voir sa note fortement dégradée et être considéré comme un pays dit poubelle par l'agence Fitch a été la goutte d'eau pour le président éthiopien Taye Atke Selassie.
Malgré les progrès que nous avons réalisés, les agences de notation internationale présentent souvent une vision déformée et peu constructive de nos économies. Leurs évaluations sont imprévisibles et incohérentes. Ce manque d'objectivité dans la notation de nos économies a d'une part gravement entravé notre capacité à accéder au capital. Et d'autre part, cela limite notre capacité à nous intégrer dans le système financier mondial.
Des biais des agences de notation qui auraient fait perdre 75 milliards de dollars d'opportunités d'investissement au continent, selon une étude citée par le président kényan William Ruto.
Une agence de notation africaine, selon moi, n'est pas seulement une alternative, c'est un impératif. Cette agence doit être crédible au niveau mondial, s'appuyer sur des données rigoureuses, répondre à des normes d'évaluation strictes. Mais surtout, elle doit refléter correctement la réalité de l'Afrique. Nous ne ferons pas ce voyage seuls. Nous construirons des alliances fondées sur des valeurs communes de dignité, d'équité et de progrès.
Selon la même étude citée par William Ruto, la revalorisation d'un cran des notes africaines permettrait de débloquer 15 milliards de dollars d'investissement.
Charlotte Cosset, un nouvel effondrement sur le site d'une mine d'or au Mali. 48 personnes sont décédées à la suite d'un éboulement sur ce site d'orpaillage illégal dans l'ouest du pays. Les victimes sont pour la plupart des jeunes femmes, précise une source policière. L'Autriche sous le choc après une attaque au couteau à Villar dans le sud du pays. Un Syrien de 23 ans, demandeur d'asile, a attaqué des passants au hasard en plein après-midi, indique la police autrichienne. Un adolescent de 14 ans est décédé, 4 personnes blessées, dont 2 grièvement. On en vient dans ce journal à l'occupation à Paris de la Gaîté Lyrique par 300 mineurs étrangers non accompagnés, regroupés en collectif et soutenus par plusieurs organisations associatives et syndicales. Ils ont manifesté hier dans la capitale. Plus que jamais, ils tiennent à continuer la mobilisation pour réclamer la reconnaissance de leur minorité, l'accès à un logement digne et à la scolarité. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes à cette manifestation, la première après la décision de justice ordonnant l'évacuation de la Gaîté Lyrique. Reportage à Rambeng.
Il y avait beaucoup de personnes à Paris ce samedi venues soutenir les mineurs étrangers qui luttent depuis 2 mois pour leur droit à un logement digne et à l'accès à la santé et à l'école. Amadou, 15 ans, fait partie des occupants de la Gaîté Lyrique.
Tout ce qu'on veut, nous les jeunes, c'est de rester mobilisés encore. On ne va pas lasser quand même. On ne mérite pas de rester dans la rue. On ne veut pas être des bandits. On veut... Tout ce qu'on les demande, ce n'est pas de grandes choses. C'est pour nous héberger et aider à être à l'école, on étudie et puis on reste comme toutes et tous les enfants des Français.
Qu'on respecte les droits que leur confère leur minorité, c'est tout ce que les jeunes isolés réclament. Ils ont eu pour réponse un ordre d'évacuer le théâtre parisien prononcé par la justice qui a été saisie par la mairie de Paris, propriétaire du lieu. Abdoul, 16 ans, exprime sa déception.
On ne s'imaginait pas que cette décision pourrait tomber en ce moment d'hiver. Qui dit de nous expulser 400 jeunes presque dans la rue. On ne sait pas comment on va survivre là-bas. C'est compliqué. Surtout pas pour nous, les garçons, mais les filles qui sont avec nous. Il y en a 14 filles.
Les mineurs non accompagnés ont 1 mois pour évacuer la Gaîté Lyrique. Mais d'ici là, ils continuent de se mobiliser pour le respect de leurs droits.
Et puis en Ligue 1, l'OM enchaîne une 3e victoire de rang en infligeant un carton 5-1 à Saint-Etienne. Parmi les buteurs du jour, Adrien Rabiot, l'international français qui sent que son équipe est désormais sur un rythme de croisière.
C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis le début de la saison. Forcément, ça a pris un peu de temps au début, tout mettre en place, à se trouver. Là, on voit que de journée en journée, ça va mieux. On est patient dans le jeu. On arrive à scorer. Bon, ce soir, on prend un but. C'est un peu dommage, mais on a complètement eu le match en main. On a tout bien fait, je pense. Et voilà, on prend du plaisir sur le terrain. Et c'est ce que demande le coach, qu'on arrive à faire. Donc c'est bien, je suis content. On s'entraîne à 100% pour jouer les matchs à 100% le week-end. Et jusqu'à la 90e, c'est ce que ça donne. Et c'est important de le faire comme ça. Faut continuer avec cet état d'esprit.
Le milieu de terrain marseillais Adrien Rabiot pour refermer votre journal sur RFI.